Vous écoutez IDFM. Il est 11h.
Déjà la rue s'éveille, c'est le lit qui bonjour. Le soleil aux merveilles sublime les faubourgs. Bonjour mon père, ma mère.
Bonjour mes chers enfants.
Bonjour monsieur le maire.
Bonjour madame Durand.
Good morning Mr. Kane.
Buongiorno signora.
Bonjour Bella Tanière.
Bonjour Calimera.
C'est le matin, ça chante sous le soleil tout neuf. Qui glisse sur la pente, tout est frais comme un œuf. Et la moitié du monde dans la fraîcheur du jour se salue à la ronde. Calimera, bonjour. Pourquoi ces mots qui naguère avaient un sens très précis d'accueillir de joie sincère ces mots qui disaient merci, ne sont-ils plus que formules? Nos bonjours, sept protecteurs, distraits, pincés, ridicules, sont toujours pauvres de cœur.
Bonsoir, le jour décline, le vieux soleil s'en va. Bonsoir.
Good evening.
Bonsoir.
Buonasera.
La journée est finie.
Les ateliers fermés.
Oh, que c'est bon la vie dans le soir embaumé. Bonsoir, cher baronne.
Bonsoir, mon général.
Oui, bonsoir, c'est la bonne.
Bonsoir, Marie Chantal.
Tandis qu'outre starine, Frau Professeur König, dans sa langue divine lance un
Goutnapik. Mais le peuple hellénique, assis sur l'agora, salut le ciel attique, bonsoir Calispera. Pourquoi ces mots qui naguère avaient un sens très précis d'accueillir de joie sincère ces mots qui disaient merci, ne sont-ils plus que formules? Nous bonsoir, c'est que protecteurs, distraits, pincés, ridicules, sont toujours pauvres de cœur.
Déjà la rue se vide sous les lampions éteints et dans l'ombre languide minuit sonne au lointain.
À l'hôtel de la lune, des couples ont flammé, s'en vont chercher fortune. Bonne nuit, bien-aimée.
Bonne nuit, Tourterelle.
Good night, Romeo.
Dorothée, Isabelle.
Il a beau, mais Julot.
Bonne nuit, juge intègre, votre bourreau demain
pendra le pauvre nègre.
Bonne nuit, dormez bien.
Petits enfants, belle señorita. Buenas noches.
Good night.
En grec,
Kalinikta.
Si ces mots étaient sincères, tout changerait à l'instant.
Bonjour les gens de la terre, bonsoir, bonne année, bon vent. Ça ferait une telle somme d'amitié, je vous le dis, que ce vieux berceau des hommes pourrait, comme avant la pomme, devenir un paradis.
Bonjour à toutes et à tous, nous voici sur Radio Enghien le 25 juin pour l'émission Bonjour Voisin, spécial animaux, animée par l'association L214, l'association qui va secouer vos idées reçues sur les animaux. Aujourd'hui, le thème de l'émission sera l'expérimentation animale. Donc, l'association L214 sera représentée aujourd'hui par Victoria, Pascal et moi-même Brigitte. Et nous aurons plusieurs invités, dont en studio Michel, qui représente le collectif Fermons le CEDS, et puis Angela de l'association Antidote. Et pour commencer, bien sûr, Pascal va nous raconter une anecdote fort intéressante.
Oui, en effet, c'est une histoire qui est extraite du livre « L'animal est-il un philosophe ?» de l'auteur Yves Christen. Donc la circulation dans les villes et les villages indiens constitue toujours un spectacle haut en couleur où les animaux tiennent une place importante. Vaches, cochons, dromadaires, singes et parfois éléphants se mêlent aux humains et aux véhicules en un gigantesque chaos où les locaux et eux seuls semblent se trouver parfaitement à l'aise. Mais ce qui s'est passé dans la ville de Tezpur en 2002 sont clairement de l'ordinaire, y compris dans ce pays grouillant de vies les plus diverses. Une centaine de macaques rhésus a, en effet, interrompu le trafic, interdisant de passage à tous les véhicules. Un bébé de leur troupe venait de se faire écraser par une voiture. Furieux, les singes ont essayé de masser et de soigner l'enfant avant de l'emporter. Les détails de l'histoire ont même été consignés par un représentant officiel local. Comment ne pas se sentir touché par ce témoignage d'ouverture à l'autre, en l'occurrence au plus faible de la troupe? S'agit-il d'un cas unique? Nullement. Les exemples de comportements altruistes ou moraux dans le monde animal abondent. Darwin et d'autres avant lui en citaient déjà. Souvent anecdotiques, parfois difficilement vérifiables, voire farfelus, quelquefois avérés, ils révèlent, dans la plupart des cas, des différences individuelles ou en fonction du contexte. Plusieurs livres ont même été, au cours de ces dernières années, spécialement consacrés à la morale animale ou encore à la biologie de la morale. On ne saurait ici énumérer toutes les études disponibles. Celles réalisées, voici un demi-siècle par Stanley Vechkin à Chicago, figurent parmi les plus spectaculaires. Elles portaient sur des singes rhésus placés dans une situation telle que leur prise d'aliments entraînait l'administration d'un choc électrique à un congénère. Ces macaques ont alors préféré s'abstenir de manger. L'un d'entre eux s'est soumis à une diète de 5 jours et un autre de 12 jours. Plutôt mourir que faire souffrir. Voilà bien une règle de conduite qui ne saurait laisser insensible. Surtout quand on compare cet altruisme simien au comportement des modernes humains participant aux fameuses expériences Stanley Milgram ou à leur moderne remake télévisuel. Ils ont accepté sans broncher de se soumettre à une autorité, leur enjoignant de punir des sujets d'expérience en les torturant au moyen de chocs électriques, en apparence très douloureux, voire mortels.
Michel Charapin, bonjour.
Bonjour.
Je sais qu'en dehors de ta brillante carrière de pianiste, tu es engagé depuis très longtemps dans le combat contre la cruauté infligée aux animaux et en particulier contre la vivisection. Je me dis que depuis que tu dénonces et tu t'exprimes contre cette pratique, tu as certainement pu tirer quelques conclusions qui nous seront fort utiles aujourd'hui. Pourquoi pratiquons encore la vivisection ? Comment ça s'explique ? Est-ce qu'elle est, au même titre que la consommation de viande, une conséquence directe de spécisme dans notre société malade, c'est-à-dire de la façon de penser l'humain comme au-dessous de toutes les autres espèces ?
Oui, bien entendu, c'est le spécisme, c'est que l'homme s'est autoproclamé roi de la planète et il est si facile d'utiliser ceux qui ne peuvent s'opposer. Donc à partir de là, de leur autoproclamation de supériorité et de la facilité à utiliser les autres êtres vivants, ils ont commencé à expérimenter sur eux. Et en plus, il s'agit d'un sujet tabou, caché, un peu comme les abattoirs, on pourrait dire. Et on a fait croire aux gens, à la fois à tort et à raison, je pourrais m'en expliquer, que la vivisection, je dis la vivisection, je peux juste dire que la vivisection, ça veut dire couper le vivant. Or, tous les animaux sur lesquels on pratique l'expérimentation animale finissent, on leur coupe la tête, on les jette à la poubelle, enfin, de n'importe quelle façon. Donc, moi, je préfère utiliser le mot vivisection. Voilà. Et donc, on a fait croire à tort et à raison, donc, aux citoyens du monde entier que celle-ci était utile pour les humains. Voilà. Et je pense que cette cause n'avancera pas tant qu'il n'y aura pas une force citoyenne qui s'y opposera. Et même là, c'est pas gagné, mais au moins il y aura une réprobation, ce qui n'est pas le cas pour le moment, puisque les gens continuent à penser que c'est vraiment utile et que au fond, ce ne sont que des animaux. Et une fois qu'on prononce le mot que, une fois qu'on dit que, tout est possible.
Bien sûr, et pire, en fait, la dissection dont il convient pour nos auditeurs à différencier la vivisection, c'est banalisé. On l'apprend à l'école.
Oui. Alors, en France, c'est tout à fait non seulement autorisé, mais recommandé. Et aucun étudiant n'a le droit de refuser. S'il refuse, il est mis au banc de l'école. Enfin, c'est vraiment extrêmement compliqué. On essaye, je dis on essaye parce que beaucoup d'associations essayent d'obtenir l'objection de conscience, d'avoir une loi comme il existe dans certains pays, en tout cas en Italie, et aussi aux Pays-Bas. Mais celle-ci est très peu pratiquée parce qu'on laisse déjà entendre que si on ne passe pas par tous ces protocoles, donc la dissection, l'expérimentation, on sera de bien moins bons scientifiques.
J'ai compris.
Oui, donc à ce sujet, en fait, une élève de 12 ans qui s'appelle Rose a non seulement eu le courage de refuser de disséquer les animaux en classe, mais s'est aussi lancée pour les défendre dans une campagne adressée au ministre de l'Éducation. Donc, je vais vous lire sa courte lettre. La dissection dans les collèges finance la mort d'animaux et encourage la maltraitance envers les animaux. Avons-nous besoin de massacrer des cadavres d'animaux pour apprendre ? Non, c'est pourquoi je trouve cela injuste d'apprendre avec des animaux morts. Étant moi-même étudiante dans un collège de classe, en classe de 5e, où la dissection se fait encore, j'ai pu voir que tous les autres élèves s'amusaient à déchiqueter le cadavre. J'ai été écœurée de ce comportement. J'étais la seule à refuser de participer à la dissection. Ce jour-là, le 12 avril 2013, il s'agissait d'un poisson. On devait lui retirer les branchies pour voir le fonctionnement du système respiratoire. Mon établissement pratique les dissections, poissons, porcs, etc. Il est possible d'apprendre dans des livres le fonctionnement de la respiration, du cœur. Seulement, mon collège préfère financer la mort d'animaux. Apprendre avec des livres permet d'éviter la mort. Donc j'aimerais à l'avenir que les dissections ne soient plus présentes dans les collèges. J'ai assisté également à une dissection de poumons d'un cochon et d'un cœur de cochon. Les élèves ne respectaient pas le cadavre et jouaient avec. J'étais furieuse de voir de tels comportements. Je vous prie, Monsieur Payon, de bien vouloir retirer la dissection de ces établissements. Voilà pour la lettre. En fait, Rose a lancé sur Internet une pétition contre les dissections d'animaux en classe qui a recueilli plus de 12 000 signatures en l'espace de 2 mois. Son action mérite donc tout notre soutien et si vous le souhaitez, vous pouvez donc vous joindre à nous pour signer sa pétition. Je voulais juste ajouter sur ce sujet qu'il existe un site Internet qui s'appelle Interniche. En fait, c'est un réseau international pour une éducation éthique dont l'objectif est de promouvoir un enseignement alliant éthique et excellence dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire et de la biologie. Ils œuvrent en faveur d'un enseignement progressiste des sciences et du remplacement des expériences sur les animaux en aidant les enseignants à mettre en place des méthodes de substitution et en encourageant les étudiants donc à exprimer leur liberté de conscience.
Donc Rose a su prendre position contre la dissection, ce que ça veut dire, les expériences pratiquées couramment sur des cadavres d'animaux. Mais la vivisection, comme Michel le disait, la science exercée sur des animaux vivants. Mais à quel but on continue l'expérimentation animale en laboratoire ? À quelle échelle ? Quels sont les chiffres d'animaux utilisés ?
Alors, dans le monde, c'est 1 milliard par an d'animaux utilisés. À peu près, je pense que c'est plus que ça, mais bon. En Europe, c'est 12 millions et en France, c'est 3 millions d'animaux par an. Sans compter, je pense, les invertébrés, les insectes, etc. Donc, c'est, voilà, grosso modo, c'est ce chiffre-là.
Oui, je sais qu'en fait, dans les rapports de l'Union européenne, tu connais certainement Michel, ce sont des rapports sur les statistiques concernant le nombre d'animaux utilisés à des fins expérimentales et à d'autres fins scientifiques, mais ces rapports sont accablants. Ils sont produits, ils sont rendus publics tous les, je sais pas, 3 ou 5 ans. Et ils décrivent malgré tout une incessante augmentation du nombre d'animaux utilisés. On utilise ce mot, on emploie ce mot, utilisé. Et en plus, il faut dire que tous les États ne communiquent pas leurs données et que les données transmises par les États membres qui jouent le jeu ne sont pas toutes prises en compte ou exploitables. Donc les variations et le flux statistique sont considérables au bout du compte. Donc la réalité dépasse largement les statistiques officielles. Est-ce que l'on communique dans ce domaine ?
Ah bah évidemment, bien entendu. Tout n'est pas dit. Et puis, c'est au fond la vivisection tant qu'elle sera pas abolie, parce que c'est vrai que elle est pour les médicaments, c'est une faillite absolue. Maintenant, tout le monde le sait. Et en fait, les expériences sur les animaux pour les médicaments n'ont jamais servi qu'à pouvoir mettre sur le marché des molécules. Donc d'avoir les autorisations. Mais il y a toute une autre partie, dont la recherche fondamentale, qui est absolument monstrueuse, parce que n'importe quel scientifique peut avoir un matin, en se réveillant, l'idée de ceci ou de cela, prendre un animal, lui faire ce qu'il veut, et il n'a aucune obligation de résultat. Donc c'est la porte ouverte absolument à un sadisme incroyable sous prétexte de faire avancer l'humanité, alors que en continuant à expérimenter les animaux, c'est au contraire une régression toujours plus grande vers la barbarie. Voilà.
C'est sûr. Par exemple, prenons l'exemple de la dose létale médiane. Une expérience vraiment monstrueuse que l'on trouve décrite dans toute son atrocité sur des pages et des pages insoutenables de la libération animale de Peter Singer déjà en 1975. Il s'agit d'un critère scientifique qui a été mis au point en 1927. Ben, en simplifiant les choses, en fait, il s'agit de la quantité nécessaire d'un produit toxique afin de tuer la moitié des animaux choisis pour un échantillon. Et ce qui est très intéressant dans le cas de cette dose létale médiane, abrégée DL50, c'est qu'il y a une organisation internationale d'études économiques qui s'appelle l'Organisation de coopération et de développement économique, qui a fait de la dose létale médiane un test officiel en 1981. 6 ans après, j'imagine qu'après les dérives que cela a pu générer, le même organisme a réduit à 20, au lieu de 30, le nombre minimal d'animaux que doit contenir l'échantillon testé. En 2000 ans, après d'autres dérives, j'imagine, il a approuvé 3 nouvelles méthodes destinées à remplacer la dose létale médiane et à occasionner, c'est marqué, une moindre souffrance animale. Et finalement, cette mesure a été abrogée par le même organisme le 17 décembre 2002. Donc Michel, pendant 30 ans, on a tué des animaux suite à une mesure officielle qui a été finalement abrogée. Comment tu commentes cela ?
Enfin, moi j'ai une position extrêmement claire et radicale, c'est que on diminue la souffrance des animaux, qu'on la réaugmente, tout ça pour des questions politiques, donc économiques, des lobbies divers et variés, que tout ça soit utile ou pas, moi j'ai une position, c'est qu'on n'a pas le droit de donner la souffrance à quelqu'un pour l'enlever à quelqu'un d'autre. Donc, de toute façon, quels que soient les intérêts humains, j'estime que la vivisection doit être abolie. Et que tant qu'elle ne sera pas abolie, nous continuerons à aller vers ce que je disais, c'est-à-dire la barbarie. On peut pas toujours, si vous voulez, au fond, la science, tous les rapports scientifiques, moi je suis tout à fait évidemment favorable à toutes les démonstrations scientifiques qui prouvent que ceci et que cela, mais en fait la seule chose importante, c'est a-t-on le droit moral d'utiliser un être vivant qui ne peut pas s'opposer ? Voilà. Moi, c'est la seule question qui m'intéresse, parce que on trouvera toujours des utilités à l'expérimentation animale. Il y en a sur la chirurgie réparatrice, sur la chirurgie dentaire, qui a fait des progrès absolument fantastiques. Mais bon, alors une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait ? On va essayer de diminuer la souffrance animale, et si on la diminue, qu'est-ce que ça change ? Sur le fond, ça ne change rien.
Bien sûr. Oui, Pascal, tu peux nous parler de l'évolution des animaux en fin de protocole. Il y a parmi tous ces cas des cas heureux, oui. Des chiens qui ont le droit à une nouvelle vie.
Oui, tout à fait. En fait, c'est il existe une association qui s'appelle Le Graal, et donc on va être en contact avec Céline Bray très bientôt, qui va nous parler précisément de la réhabilitation d'animaux de laboratoire.
Bonjour Céline.
Céline, bonjour.
Oui, bonjour.
Oui, bonjour Céline. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci de vouloir parler de l'association dans votre émission.
En fait, vous travaillez donc au pôle réhabilitation d'animaux de laboratoire, donc au Graal. Le Graal, en fait, c'est le groupement de réflexion et d'action pour animal qui existe depuis 1997. Et c'est à partir de 2005 que vous avez offert ce service original, légal et unique, aux unités de recherche françaises, donc voilà, qui est la réhabilitation d'animaux de laboratoire, qui arrive en fin de protocole, ça, et dont l'état de santé permet d'envisager une retraite dans la vie civile. Est-ce que vous pouvez nous, voilà, nous en parler un petit peu plus, s'il vous plaît?
Oui, tout à fait. Alors, comme vous l'avez dit, en fait, cette action est menée donc sur des animaux qui peuvent être réhabilités derrière. Oui. Et donc, il s'agit de leur offrir une seconde vie, une retraite, en fait, après leur utilisation en laboratoire, pour qu'ils puissent évoluer soit en famille pour des animaux comme des chiens, des chats, des lapins, éventuellement des souris, oui, soit dans des centres spécialisés, puisqu'on réhabilite également des animaux comme des primates.
D'accord.
On a aussi des animaux de ferme, etc. Donc des chevaux, des chèvres, des ânes. Donc à chaque cas, c'est un peu particulier. Donc il faut essayer de trouver des familles d'accueil, des centres d'accueil. Et donc on peut en effet sortir ces animaux. Voilà. D'accord. Et c'est, comme vous l'avez dit, tout à fait légal. C'est quelque chose qui est de plus en plus favorisé dans les laboratoires. Il y a un décret qui est passé en février, justement pour essayer de favoriser au maximum ces procédures de réhabilitation.
D'accord. Et comment se passe le partenariat justement avec les laboratoires? Est-ce que vous avez un bon...
Alors, ça peut commencer de deux manières. Soit nous contactons des laboratoires, on fait ça en effet assez régulièrement. Soit les laboratoires ont connaissance de l'association et nous contactent eux-mêmes pour lancer les réhabilitations. Mm-hmm. Et à partir de là, donc nous on établit un contrat avec le laboratoire donc pour cadrer un peu tout ça. Mm-hmm. Et donc les labos nous confient leurs animaux que nous on va placer ensuite dans des refuges ou dans des centres. Donc par exemple pour les chiens et les chats, on va les placer souvent dans des refuges style SPA.
D'accord.
Et à partir de là, en partenariat avec le refuge, on va trouver des familles d'accueil qui sont sensibilisées à la cause de la réhabilitation animale, bien entendu, pour accueillir ces animaux chez eux. Donc il peut s'agir d'animaux très jeunes comme des animaux plus âgés, donc forcément ça va pas toucher le même public. Mm-hmm. Et à chaque fois il y a une phase de sensibilisation des gens, puisque quand on récupère des animaux de laboratoire, ils n'ont pas l'habitude de l'extérieur, ils sont pas forcément propres, etc. Donc tout ça c'est des choses qu'il faut leur apprendre.
Et justement, voilà. dans quel état se trouvent les animaux que vous récupérez en fait?
Alors souvent ce sont des animaux qui n'ont pas subi des protocoles très lourds, forcément des protocoles invasifs, donc généralement ils sont évidemment un petit peu craintifs, mais relativement en très bonne santé. Mm-hmm. Et certains laboratoires se mettent de plus en plus à essayer de faire de la sociabilisation avec les animaux pour qu'ils aient le moins peur de l'homme possible et que derrière les réhabilitations se passent le mieux possible. Voilà. D'accord. Donc c'est vrai que de temps en temps on récupère des chiens qui sont plus âgés, donc là forcément il y a tous les problèmes physiques qui vont avec la vieillesse de l'animal, mais dans la majorité des cas ce sont quand même des animaux en bonne santé qu'on récupère.
D'accord. Parce qu'on pourrait penser assez utopique d'espérer une rémission de ces animaux-là qui ont autant souffert.
Généralement, on a des retours très positifs des familles d'accueil, puisqu'on fait ça régulièrement, en fait, de faire un petit reportage sur les différentes réhabilitations, oui, pour que les gens nous expliquent un peu comment ça se passe, comment l'animal évolue. Généralement, ce sont aussi des familles qui ont déjà d'autres animaux, donc comment ils s'intègrent, etc. Et ce qu'on constate, c'est que très souvent, alors ça prend du temps, ça prend quelques semaines, quelques mois, mais finalement, l'animal finit par être tout à fait capable de vivre en famille et retrouve des périodes de jeu. Il interagit énormément avec les autres animaux de la maison, etc. Donc a priori, ça se passe très très bien dans les familles. Dans les familles qui nous font des petits reportages à la fin.
D'accord. Et voilà. Est-ce que le Graal a des projets à venir, enfin, veut développer encore plus?
Les réhabilitations en cours.
Oui.
Oui, alors on a effectivement, cette année, on a créé le pôle réhabilitation au sein de l'association, puisqu'avant, c'était une action qui était menée quasiment uniquement par sa présidente. Donc là, comme on commence à avoir énormément de dossiers, il y a un pôle spécifique qui a été développé pour ça. Donc, on est plusieurs à en faire partie. D'accord. Et donc, effectivement, on a de plus en plus de labos qui collaborent avec nous, de plus en plus de dossiers en cours. Là, par exemple, on a des chiens qui vont sortir dans la région de Nantes prochainement et en Savoie également, d'ici la fin du mois de juin, début du mois de juillet. Donc, on a ce genre d'action-là. Et après, c'est toujours un peu dépendant de la demande des laboratoires et de ce qui est possible de sortir comme animaux. Mais c'est vrai qu'on a de plus en plus de demandes, en effet. Et en plus, depuis le décret qui est passé au mois de février, où tout est a vraiment un cadre qui a été posé autour de ça, un cadre légal, et une demande explicite de l'État au laboratoire d'essayer de, dans la mesure du possible, de réhabiliter le plus d'animaux possible. On a de plus en plus de demandes, en effet.
D'accord. Bah, écoutez, on vous remercie beaucoup pour votre intervention.
C'est nous qui vous remercions, encore une fois, de parler de notre travail.
Merci, bonne continuation en tout cas.
Merci à vous, bonne
journée.
Au revoir,
merci.
Donc il faut rappeler que ça concerne finalement assez peu d'animaux par rapport au nombre qui sont dans les laboratoires aujourd'hui, et que là, comme l'a souligné Céline, c'est des animaux qui sont encore entre guillemets en bon état, qui sont capables après d'être adoptés par des familles. Mais c'est une goutte d'eau par rapport à l'ensemble des animaux qui sont soumis à l'expérimentation animale et puis qui en meurent dans les cages ou qui sont entre guillemets euthanasiés à la fin après avoir été malmenés pendant toute leur vie. Maintenant, on va faire une petite pause musicale avec la bande originale du film ALF qui relate ce film, une libération justement d'animaux de laboratoire, avec un morceau qui s'intitule « La pire des espèces ».
Quand je pense à tout ça, je me dis qu'une vie humaine n'a pas forcément plus de valeur qu'une vie animale.
Vous croyez ?
Oui, maintenant je le crois.
Et pourquoi ?
Parce que l'homme est la pire des espèces. Il n'a peut-être pas le monopole de la cruauté, mais c'est le seul à en avoir conscience. Les animaux ne se plaindront jamais d'être traités comme ils le sont. Ils n'ont pas le choix. Nous, ce choix, nous l'avons.
C'était donc La pire des espèces, extrait de la bande originale du film ALF. ALF, film qui va sortir en DVD le 1er octobre 2013 et que, bien entendu, nous vous conseillons vraiment de façon poussée. Victoria, tu vas recevoir maintenant Arnaud.
Oui, il s'agit d'Arnaud Gavard pour avoir une voix avisée sur ce que l'on appelle couramment les alternatives à la vivisection. Arnaud Gavard, tu nous entends ?
Oui, bonjour.
Bonjour Arnaud.
Bonjour à toute l'équipe.
Ben, tu es porte-parole du comité scientifique ProAnima qui rassemble des personnalités du monde de la science, de la culture, des médias en liaison avec des chercheurs, des experts, des scientifiques de haut niveau et qui ne se trouvent pas seulement dans la dénonciation de la vivisection, mais qui engagent une véritable réflexion et qui fait un travail qui se donne les moyens pour parler des alternatives à la vivisection et plus globalement à l'expérimentation animale.
Tout à fait.
Qui persiste, on le sait bien, dans l'opinion publique comme des pratiques utiles. Le comité ProAnima étudie, publie, organise des congrès et rencontre, c'est très important, rencontre des responsables français et européens. Donc, quelles sont les démarches, les avancées du comité ProAnima dans ce champ, Arnaud Gavard?
Alors, donc merci de me donner la parole. En effet, comme vous avez dit, on a eu quelques avancées qui sont pas forcément assez importantes par rapport à l'énormité de la tâche, mais on a quand même piloté un projet qui s'appelait Validox, qui était une alternative ou une méthode substitutive, on appelle ça comme on veut, qui était une technologie assez sophistiquée, qui peut donc se substituer à l'expérimentation animale, notamment sur les rongeurs, et qui avait une fiabilité beaucoup plus importante, puisque on sait que ces alternatives sont hélas toujours comparées aux tests sur les animaux, et là Validox avait une fiabilité plus importante et des résultats plus fiables. C'est un projet qui est actuellement à l'EGVAM. L'EGVAM, c'est l'organisme européen en charge de valider des validations, donc, afin qu'ensuite ce programme soit véritablement utilisé. On sait qu'il est déjà, en tout cas, utilisable.
D'accord. Donc, vous apportez des preuves rigoureuses qu'aucune espèce ne peut être prise comme modèle biologique fiable pour une autre, parce qu'en fait, c'est ça le problème.
Ça, c'est le postulat de base de l'association qui a été créée il y a plus de 20 ans. Et ensuite, comme vous avez dit, il fallait pas juste dénoncer. On a essayé de proposer d'autres choses. Donc Validox, c'était une démarche un peu plus ouverte sur la communauté scientifique. Parce qu'il y a des scientifiques quand même, il faut pas oublier, c'est pas la majorité, qui ne croient pas au modèle animal, qui a éventuellement un problème éthique aussi avec ces tests sur les animaux. Et il y a plein de choses qui se font, qui existent, et qui peuvent se substituer aux tests sur les animaux. Je peux vous donner des exemples, si vous le voulez.
Bien sûr.
On parle en ce moment, on a une nouvelle qui est tombée, on parle de biosimulation. C'est une nouvelle vraiment intéressante pour nous, puisque ça a été mis au point par un laboratoire français. C'est une technologie informatique qui reproduit le système nerveux humain. Donc, pour les maladies neurodégénératives comme Parkinson ou Alzheimer. Donc, il y a plein de techniques, plein de voies de recherche qui s'ouvrent. Des cellules humaines cultivées en tissu pour un résultat plus fiable en tout cas pour l'espèce humaine. On arrive à modéliser certaines maladies. Et ça, c'est vraiment important, ça c'est vraiment intéressant, et ces scientifiques-là, nous on veut les soutenir de manière vraiment poussée. C'est pour ça qu'on lance un projet qui s'appelle Éthique Science.
D'accord. J'imagine que tous ces détails, on peut les trouver sur votre site.
Sur le site, on peut trouver voilà tous ces détails. Alors, on a vraiment une partie qui est un petit peu plus militante, où on écrit au pouvoir public, on essaye de les rencontrer pour les bouger, parce que ça ne bouge pas assez vite. Et une partie un petit peu plus recherche, puisqu'on veut soutenir cette recherche alternative. On veut mobiliser la communauté des personnes qui aiment les animaux, qui aiment la nature, et ces personnes qui veulent quand même soutenir la recherche, c'est important de proposer quelque chose là-dessus, et c'est pour ça qu'on a créé un fonds qui s'appelle le Fonds Éthique Science. C'est tout nouveau, ça vient d'être lancé, donc c'est une édition pilote, on va voir ce que ça donne, et c'est vraiment de faire une sorte de campagne de collecte, un peu comme il existe le Téléthon ou le SIDAction, mais cette fois pour de la recherche 100 tests sur animaux.
Pour de la science qui a une conscience.
Exactement, tout à fait.
D'accord. Donc on encourage tout le monde d'aller sur votre site proanima.fr et je te remercie beaucoup Arnaud pour tous ces détails.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir.
Donc Arnaud, lui, travaille sur les alternatives. Et maintenant, Angela, tu vas pouvoir, toi, nous parler d'une initiative européenne qui a été prise, justement, au niveau européen. Pourrais-tu nous en dire un petit peu plus ? C'est une initiative vraiment importante à soutenir aujourd'hui ?
Oui, bien sûr. Je pense qu'il faut quand même faire quelques prémices aussi avant de rentrer dans les détails de l'initiative, parce que déjà quelque chose que les gens ne savent pas forcément sur l'expérimentation animale, c'est que ce n'est pas un mal nécessaire. C'est-à-dire, je voudrais un peu mettre l'accent sur le fait que, bien sûr, on a une éthique qui nous amène à utiliser des méthodes substitutives, mais même du point de vue strictement scientifique, l'effet de la différence de patrimoine génétique entre un animal, un humain et même entre différentes espèces, ça fait que ces modèles en soi-même n'est pas un bon repère du point de vue scientifique. Ça, c'est quelque chose qui est très caché par les médias, qui ils sont souvent de la côté des lobbies pharmaceutiques et qu'ils souhaitent quelque part soutenir la vente d'un grand nombre de produits chimiques, etc., plutôt que dire aux citoyens la vérité sous cette modèle qui n'est pas fiable et est même dangereux. Je veux faire quelques exemples pour être plus clair sur ces points-là. Et, par exemple, disons que par rapport à la différence d'espèces, il y a des réactions qui sont différentes par rapport à la même situation. Par exemple, une maladie, l'exposition à des substances chimiques, etc. Les chimpanzés, on peut les considérer les plus proches cousins de l'être humain et on partage avec eux les 98 de notre patrimoine génétique et même lui, il est tellement différent de nous que par exemple est immunisé contre le sida. Comment savoir ça? On peut pas le savoir. C'est-à-dire on peut jamais savoir si on peut jamais savoir si un animal et un humain ont la même réaction, sauf si on fait les tests sur l'humain. C'est-à-dire que tester sur un animal n'empêche pas du tout de tester sur l'homme. C'est-à-dire nous, actuellement, on fait des tests qui sont sur l'homme, parce que l'animal n'est pas vraiment fiable. Alors, cette promesse est importante, parce que on a une loi, une directive au niveau européen qui nous oblige à tester toutes les nouvelles molécules, toutes les substances sur les animaux. Et naturellement, il n'explique pas ce qu'est l'animal. Alors, on peut facilement savoir, même si on n'est pas scientifique, que c'est pas la même réaction si on teste sur un poisson, si on teste sur un éléphant, etc. Mais la loi, il précise pas ça. Il nous oblige simplement à considérer comme référence les tests sur les animaux. Alors, l'initiative européenne pour Stop Vivisection a pris en compte cette contradiction de base et il vise, c'est pas une initiative comment dire humanitaire vers les animaux, mais c'est une initiative vraiment pour garantir une recherche médicale plus fiable pour les humains, pour les générations futures. C'est-à-dire que du point de vue scientifique, il y a des méthodes substitutives de lesquelles on a parlé tout à l'heure avec Arnaud. Il y a une grande quantité de méthodes qui peuvent être utilisées et qui sont bloquées par rapport à l'existence de la loi actuelle. Alors, l'importance vitale de changer la loi et de la changer dans le sens de remplacer complètement l'expérimentation animale avec les méthodes substitutives qui sont déjà très avancées. Par exemple, toutes les méthodes pour évaluer la toxicité des substances sur les cellules humaines, et sur les organes humains, etc. En culture, hein, pas sur les individus. Et cette initiative a commencé, disons, au début de 2013. Était préparée déjà à partir de 2012. Et il y a un groupement d'eurodéputés dont Sonia Alfano fait partie, qui ont pris en main cet sujet, que c'est plutôt difficile. Il y a beaucoup de barrages de vue au système économique actuel, et ils ont décidé d'amener ce changement au niveau de la loi. Il y a plusieurs étapes à franchir pour y arriver. La première étape, c'est la récolte d'un nombre de signatures, d'un million de signatures, dans un délai déterminé, c'est-à-dire un délai jusqu'à 1er novembre 2013.
Alors, il y a un site. Pour récolter ces signatures, effectivement, il y a un site, et puis il y a des actions qui sont menées sur le terrain. Par exemple, c'est le cas de Eric, voilà, qu'on va recevoir tout de suite.
Bonjour Eric.
Bonjour, merci pour votre accueil.
Merci à toi. En fait, tu es l'animateur d'International Campaigns, collectif pour les droits des animaux, fondé il y a 10 ans et qui lutte plus particulièrement, mais pas seulement, contre l'expérimentation animale. Pourrais-tu nous présenter un petit peu l'association, nous dire quels sont les objectifs ?
Oui, tout à fait. Donc, International Campaigns est un collectif informel. On insiste bien sur l'aspect militant, sur la priorité que nous accordons à la mobilisation et à l'action. Mmh. Nous avons une version, je dirais, abolitionniste des choses et de la condition animale, à savoir que sur le segment de la vivisection, nous avons une position clairement abolitionniste. Aucune collaboration avec les gens qui font ça aux animaux. Ce qu'on veut, c'est juste des cages vides. On veut pas de caresses, on veut pas des cages plus grandes, on veut pas de bons traitements.
On a compris.
On veut juste des cages vides. Parce que l'abolitionnisme, c'est aussi la clarté, et c'est aussi aller dans le sens d'une science vraiment progressiste, à savoir dédier tous les moyens qui sont actuellement démesurés en faveur de la vivisection, dédier tous les moyens donc à une science performante comme Angela, donc de l'association Antidote vient de le rappeler.
D'accord.
Donc effectivement, au-delà de la vivisection, nous nous impliquons dans des campagnes pour les droits fondamentaux des animaux, et nous relayons ponctuellement à travers l'année différentes campagnes, dont la journée sans viande et la journée internationale pour les droits des animaux. Et plus particulièrement, une campagne contre la vivisection qui s'appelle Stop aux animaux dans les labos, que nous avons lancée en 2008, et qui prend une nouvelle tournure depuis la rentrée 2011, à savoir que nous insistons de plus en plus et nous nous positionnons un petit peu en première ligne, avec tout le soutien que nous apportons à toutes les associations progressistes, que ce soit au niveau des méthodes de substitution. Nous sommes en première ligne et nous soutenons actuellement donc effectivement le relais des signatures pour l'initiative citoyenne européenne Stop Vivisection, dont vient nous parler Angela. Et au-delà de cela, nous avons donc cette campagne de happening, dont le prochain épisode sera le 20 juillet à Amiens.
Oui.
Donc un happening géant, Stop aux animaux dans les labos, place de Notre-Dame à partir de 14h, pour inviter régionalement tous nos concitoyens. C'est là où c'est une mobilisation citoyenne. Tous nos concitoyens sont invités à nous rejoindre, moyennant inscription sur notre site, pour protester. Nous leur donnons l'occasion en région de protester contre l'expérimentation animale. Mais nous sommes, comme toujours, dans une démarche positive, à savoir nous dénonçons, mais nous proposons et nous soutenons également les méthodes de substitution. Donc je fais un appel, j'en profite pour toutes les bonnes volontés du nord de la France en particulier, si elles veulent nous rejoindre donc samedi 20 juillet, place Notre-Dame devant le parvis de la cathédrale d'Amiens.
D'accord. Nous te remercions et puis souhaitons bonne continuation à toute
l'équipe.
Merci
à vous de donner la parole aux gens qui s'opposent à la vivisection. Bonne
merci,
journée.
Merci, merci Eric, au revoir.
Voilà, donc Eric, concrètement sur le terrain, qui rappelle ce qu'est la vivisection et qui rappelle qu'on peut tout à fait s'en passer. Angela, donc on parlait de cette initiative citoyenne européenne que Eric relaye aussi et tente de faire signer. Combien de signatures aujourd'hui en France et combien il en faut pour être effectif?
Alors disons qu'on a 30% de l'objectif. 30%, c'est pas énorme, mais ça dépend de bonne volonté de chacun, des associations, des individus pour pouvoir atteindre les 100%. Il y a les sites dédiés, un site créé par l'Union européenne, s'appelle www.stopvivisection.eu. Là, on peut signer une ligne. Bien sûr, c'est une initiative populaire. Il a plus de force, disons, d'une pétition, mais il a un contrat aussi. Il faut intégrer tous ces numéro de pièce d'identité, etc., pour éviter que la même personne puisse signer plusieurs fois.
Ok, merci beaucoup. On en reparlera encore au cours de cette émission qui avance décidément très rapidement. Et tout de suite, nous allons recevoir Camille de Toulouse. Camille.
Oui, bonjour.
Bonjour. Tu vas nous parler, toi, d'une entreprise, en fait, qui profite de l'expérimentation animale de façon indirecte. On va parler de ces transporteurs qui transportent des animaux vivants et de la campagne Air France, Air Souffrance, qui est actuellement menée un petit peu partout dans le monde.
Oui, voilà, un peu partout dans le monde. En France, elle est reliée sur Paris et Toulouse. Et donc, le but est de faire en sorte qu'Air France arrête de transporter des animaux pour les laboratoires. Et nous les ciblons particulièrement puisque c'est le premier transporteur d'animaux et notamment de primates pour les laboratoires.
Est-ce qu'on sait combien ça représente d'animaux?
On n'a pas de chiffre exact sur le nombre d'animaux transportés par Air France, malheureusement, parce qu'ils cachent beaucoup de choses. Mais on sait que voilà, il y a plus que eux en Europe, il y a plus que 3 compagnies dans le monde pour les primates. Donc ça représente quelque chose de très conséquent en nombre d'animaux avec quand on voit déjà tout ce qui se trouve dans les fermes d'élevage, ce qui Air France se fournit, c'est impressionnant.
Et donc le 6 juillet, il y a une grande manifestation qui est organisée à Paris justement pour essayer de faire prendre conscience. Alors en plus des actions que vous organisez bien sûr chaque semaine, il y a une grande manif nationale le 6 juillet, c'est ça?
Oui, voilà, le 6 juillet à 14h. Donc le rendez-vous c'est place Edmond Rostand à Paris 6e. Et voilà, c'est la première grande marche qu'on organise contre Air France, qui est un peu différente des actions organisées d'habitude, qui sont des manifestations où on reste 2 ou 3 heures devant les agents.
Ok, on peut retrouver toutes ces informations sur un site internet?
Le site airsouffrance.fr.
Ok, merci beaucoup Camille, et puis eh bien aussi juillet en tout cas sur le macadam.
J'espère.
Au revoir.
Au revoir.
Et donc maintenant c'est l'heure de la deuxième pause musicale. Donc on va retrouver toujours la bande originale d'ALF, ce film qui nous parle de vivisection justement et de libération d'animaux.
Ouais, je sais, c'est comme ça. On peut pas pleurer sur le sort de tous les animaux. C'est pour ça que la plupart d'entre nous considèrent la souffrance des animaux comme un mal nécessaire, en évitant d'y penser plus que ça. De toute façon, qui a vraiment envie de savoir que la vie d'une poule dans un élevage moderne tient dans l'espace d'une feuille de papier à lettres? Qui se soucie qu'on immobilise des singes dans des tubes en plastique pour leur faire avaler du détergent ménager? Qu'on ébouillante des cochons encore vivants? Qu'on broie des canetons pour les besoins du foie gras? Qui oserait pleurer le sort des milliers de renards à qui on enfonce dans le cul une sonde électrique pour que des vieilles salopes puissent s'exhiber avec leur fourrure? Jamais dans l'histoire, les animaux n'ont été martyrisés de manière aussi massive, avec des moyens aussi énormes, aussi efficaces, pour des prétextes autant futiles qu'abjects. Et avec une telle absence de scrupules. On crache sur eux par notre indifférence, on bouffe leur chair sans même avoir le respect de regarder leur agonie en face. Léonard de Vinci a prédit qu'un jour, les hommes proscriront le meurtre des animaux comme ils proscrivent le meurtre de leurs semblables. Je l'espère.
Eh bien voilà, donc c'était la bande originale du film ALF, réalisé par Jérôme Lescure, qui est sorti l'an dernier et dont le DVD sortira au mois d'octobre. Voilà, ceux qui n'ont pas pu le voir sur grand écran ou ceux qui auront le plaisir de le revoir à la maison. Voilà, il y a de quoi faire. Maintenant, on va se tourner vers Michel, Victoria.
Oui, donc pour ceux qui nous écoutent, en résumé, on a vu qu'il y a en principe trois choses qui font que la vivisection puisse perdurer aujourd'hui. Le spécisme dominant, hein, les animaux sont nés pour nous servir. L'opinion publique formatée par les préjugés scientifiques hérités de l'école, les animaux sont nés pour nous servir. Les expériences sur les animaux sont utiles, mais aussi... on arrive à la dimension lucrative de la vivisection, parce qu'en fait tout ce que la vivisection suppose, donc des vivisecteurs, des laboratoires et tout, et du matériel de recherche, bah, tout ça s'inscrit dans une logique de marché, c'est peut-être le bon terme, il nous semble d'un cynisme insoutenable, mais malheureusement c'est bien vrai. Donc afin de pouvoir dénoncer, expliquer aux citoyens qui, en faisant des dons généreux au Téléthon, ils financent directement le massacre perpétré sur animaux. Michel, tu fais un gros travail de communication. Je sais que prochainement, l'une de tes actions va se passer le 29 juin à Dijon. Et cela vise l'élevage de mésilles. Tu peux nous donner plus d'infos?
Oui, bien sûr. Donc, l'élevage de mésilles, c'est le CEDS, le Centre d'élevage du domaine des souches, qui est une entreprise familiale qui est installée là-bas depuis 30 ans et qui est une entreprise extrêmement, vraiment familiale, de père en fils et de mère en fils d'ailleurs, puisque toute la famille est concernée.
La famille Carré.
La famille Carré, donc qui élève des chiens avec des chiennes reproductrices qui font qui sont là uniquement pour les mettre au monde des chiots, qui sont envoyés dans les labos de vivisection dès l'âge de 4 mois. Donc c'est cette famille, cet élevage rapporte énormément d'argent à la région par divers moyens. Le directeur, qui est un ancien ingénieur de recherche de l'INSERM, donc c'est tout dire. Et en fait, c'est l'antichambre de la vivisection. Ces élevages, et celui-là naturellement, est l'antichambre de la vivisection, c'est-à-dire qu'ils sont vendus au laboratoire. D'ailleurs, le Téléthon est un très très bon client du CEDS.
Exactement. Voilà. Oui.
Entre autres, il y a aussi les écoles vétérinaires, il y a aussi la recherche sur des maladies très très graves d'humains. Enfin, c'est un lieu où il est, qui est donc depuis 30 ans, One Voice, il y a je crois une dizaine d'années, peut-être plus, a essayé de faire une enquête, a essayé de le faire fermer, mais ils ont été menacés de procès, ils ont dû arrêter. Donc on reprend le flambeau avec d'ailleurs d'autres, hein, on n'est pas les seuls. Nous, ce que notre but, c'est vraiment notre objectif plus exactement, et d'arriver à sensibiliser la région, parce que nous avons remarqué lors d'une précédente manifestation que beaucoup de gens ne savaient pas ce qu'était mésille. Ils savaient qu'il y avait un élevage, mais qu'est-ce qui s'y passait? Personne ne le savait. Et voilà, donc il y a quelques élevages comme ça en France. Moi, je les connais pas tous. Alors, il y a les élevages familiaux et il y a les élevages qui sont internationaux, qui sont tenus par des multinationales, comme Green Hill, d'ailleurs, qui appartient à Marshall, qui est une des grandes sociétés de vente de chiens pour la vivisection, avec des chiens d'ailleurs qui sont préparés. On leur coupe les cordes vocales pour qu'ils n'ennuient pas les vivisecteurs. Donc on ne sait pas très bien ce qui se passe à l'intérieur du CEDS. On peut imaginer le pire. Déjà, le fait d'enfermer ces chiens, de les faire naître, qui ne voient jamais la lumière du jour, ils ont juste une petite courette pour se dégourdir à peine les pattes. On peut imaginer qu'il s'y passe le pire, mais
en réalité, pour le moment, on n'a jamais su vraiment s'il y avait des illégalités. Or, et je suis absolument persuadée qu'il y en a, d'ailleurs la première, c'est l'existence même de cet élevage, qui sur le plan moral est parfaitement illégal. Moi, je reviens toujours à ça. Et voilà, donc nous, on veut absolument que le plus de gens, de citoyens possibles, soient au courant et nous rejoignent et pour protester, pour dénoncer aussi ce qui se passe en amont de la vivisection. Alors bien sûr, il y a aussi les élevages qui sont au sein même des laboratoires, donc là c'est beaucoup plus compliqué, mais voilà. Donc
Green Hill, c'est un exemple qui ressemble beaucoup à Maisy, non, en Italie.
C'est très différent parce que Green Hill justement n'est pas une entreprise familiale. Il y a eu en Italie un élevage qui s'appelait Morini, qui lui était vraiment le pendant de Maisy, c'est-à-dire c'était tenu par une famille et il a fallu des décennies pour fermer cet élevage et les militants, à force de pugnacité, y sont arrivés. Ça a mis 7 ans, mais l'élevage est fermé à tout jamais et les éleveurs se sont recyclés dans je ne sais quoi, qui n'a rien à voir d'ailleurs avec les animaux. Green Hill, c'est vraiment le fruit de la multinationale Marshall qui est implantée dans beaucoup de pays, en Asie, au Canada. Ils ont voulu s'implanter en France, mais ils n'ont pas réussi. Et, et d'ailleurs, les bureaux de Green Hill sont à Lyon.
Ah, voilà. Oui. Mmh. Vous avez organisé une manifestation en septembre 2012.
Alors, tous les chiens de Green Hill, grâce aux militants, qui ont vraiment mis, aux associations qui les ont soutenues, ont réussi à y entrer. Enfin, c'est une longue histoire, donc on n'a pas le temps d'en parler.
Ah oui, hein.
Mais malheureusement, donc, ils ont pu voir les illégalités, il y a eu des procès, et voilà. Et donc, tous les chiens sont libérés, mais pour le moment, l'élevage n'est toujours pas fermé.
C'est ça la suite.
Il est sous séquestre. Voilà.
Il a été mis sous séquestre, oui, en juillet 2012.
Voilà.
Mais dans tous les cas, c'est Green Hill, cet élevage intensif énorme a été en 2012 le lieu d'un événement glorieux qui a fait très très vite via les réseaux sociaux le tour du monde. Les images, les photos avec ces petits beagles, ces petits chiens passés d'une main à l'autre dessus des barbelés sont devenus tout un symbole d'espoir envoyé au monde entier par les militants italiens.
Qui ont d'ailleurs un procès.
Oui, 12 ont été arrêtés.
Oui.
Ah oui, ils sont en procès.
Oui, oui.
C'est ça. Michel, on peut rappeler que donc, le 29 juin, tu co-organises une chaîne humaine contre la vivisection à Dijon.
Oui, donc c'est essentiellement pour dénoncer le CEDS, mais bien entendu, donc c'est contre la vivisection, c'est une chaîne humaine. Le rendez-vous est à 14h devant la gare de Dijon. C'est voilà, ça. Et on vous espère très très nombreux pour cette manifestation.
D'accord, et on invite, comme d'habitude, ceux qui nous écoutent à aller sur le site dédié à cela, fermont-le-ceds.org. Je te remercie.
Merci. Voilà. Eh bien, pour terminer cette édition, donc le petit agenda. Déjà demain après-midi, Angela nous rappelle qu'il y a l'initiative qui sera présentée devant les députés au Parlement européen. Donc l'initiative citoyenne contre la vivisection. On vous rappelle que vous pouvez la signer sur stopvivisection.eu. Le 29 prochaine date, ce sera la manifestation contre le CEDS, donc à Dijon, 14h devant la gare SNCF. Le 1er juillet, de 19h à 22h, la projection du film Entrée du personnel, en présence de la réalisatrice Manuela Frésil à la mairie du 2e arrondissement à Paris, 8 rue de la Banque. La manif Air France qui aura donc lieu le 6 juillet à 14h, place Edmond Rostand à Paris 6e. Et puis on peut aussi évoquer les estivales de la question animale qui auront lieu du 2 au 11 août à Marle dans la Loire, moment très important d'échange d'idées et de réflexion. toujours sur l'expérimentation animale, deux manifs très importantes au mois de septembre. On aura le temps d'y revenir au mois de juillet et au mois d'août dans nos émissions futures. La manifestation à Mézilles le 7 septembre et la manifestation à Ghana le 29 septembre. Le 28, pardon, le 28 septembre. Heureusement qu'il y en a qui suivent dans le studio. Il me reste à vous annoncer le thème du mois prochain. On sera pendant les grandes vacances et donc le thème que nous souhaiterions aborder sera sur les abandons. Et puis bien sûr, nous reviendrons sur les estivales de la question animale. Il me reste à remercier nos invités d'avoir fait le déplacement pour venir en studio et de remercier également celles et ceux qui nous ont répondu au téléphone. Victoria, Pascal, au mois prochain. Et nous vous retrouverons avec grand plaisir sur l'antenne de Radio Anguin. N'oubliez pas que vous pouvez aussi retrouver ces émissions en podcast sur le site d'L214, l214.com. A très bientôt.
Comment ça va ? Depuis 10 ans qu'on habite là, c'est la première fois qu'on se voit. Bonjour voisin, c'est ma foi vraie, 10 ans qu'on vit sur le même palier, sans même une fois se rencontrer. Faut dire qu'on sait plus bien où on en est, à quel saint vouer ses prières, mais nous du moins, on a la liberté, entrez donc prendre un petit verre. J'ai là un petit blanc qui est pas piqué, nous avons des amis dans les corbières. Non, non, voisin, je ne peux pas, ça sera pour...
IDFM, Radio Anguin 98 FM, ça change de la radio.
Get past people, get past, hit me.
Bonjour, c'est Bob Garcia sur IDFM 98. Je vous donne rendez-vous tous les dimanches de 20h30 à 21h30 dans Jazz Actu. Une heure consacrée à l'actualité de la planète jazz. Au programme, des interviews exclusives, des coups de cœur, les concerts à ne pas rater, mais surtout de la musique. Les meilleurs morceaux de jazz sélectionnés pour vous, dans tous les styles et pour tous les goûts. Jazz Actu, le tour de la planète jazz en 60 minutes, c'est tous les dimanches de 20h30 à 21h30 sur IDFM 98.